tu as une grosse épicerie, ben tu vas avoir une boulangerie, tu vas avoir un nettoyeur, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. En bas de 8000, tout le monde a son char.
Oui, mais on part. Mais c'est super intéressant et ça fait sens extrêmement. On part d'où là pour commencer à développer ces communautés-là, ces micro-communautés un peu partout? C'est quoi le plan de match?
Des plans de développement des municipalités où, au lieu de faire des bungalows, parce que tout le monde, je comprends que les gens veulent... Moi, tu sais, t'as des enfants. Regarde, je reçois tantôt une jeune femme qui a écrit un livre qui dit exactement ça. À l'habitat de Montréal, je voulais une maison avec une cour, avec un sous-sol. Je veux planter un petit jardin. Je veux que mes enfants jouent dans la cour. Tout le monde veut ça. OK, c'est correct. Vu que les enfants jouent au hockey dans la rue, même si c'est interdit dans plusieurs municipalités, ça mérite des claques, mais c'est pas grave. Bon, toujours est-il que c'est ça qu'on veut. Mais c'est pas ça qu'on peut... Si on veut ça, là... Ces gens-là, il y en a 30-40% qui vont être prêts avec des prix de pétrole ou d'électricité qui vont les mettre à mal. Alors, il faut se contraindre et dire, ben, on va construire des villes qui sont agréables avec peut-être des maisons, pas obligé d'être juste des logements.
Mais si on en revient au prix de l'essence, là, moi j'ai l'impression que même si ça double, ça triple d'ici 10 ans, comme tu disais, là, les gens vont s'adapter puis vont quand même le payer pour continuer à avoir accès à cette vie-là qu'ils souhaitent avoir. J'ai un souvenir, là, quand on a dépassé le 1$ le litre d'essence. J'étais enfant, puis j'étais très loin d'avoir une voiture, puis je me souviens, tout le monde en parlait, ça n'a pas de bon sens, on sera pas capable de payer. Et hey, aujourd'hui, là, ça doit faire 20 ans de ça, là, ça dont je parle, puis ça n'a pas plus changé. Là.
Mais espérons que justement la technologie pour les voitures électrique s'améliore. Espérons que les prix vont devenir un peu plus modiques. Espérons que notre système de transport en commun va s'améliorer. T'sais. On a tellement de chemin de fer sur l'île de Montréal qui est utilisé pour autre chose que des gens qui veulent se déplacer. Il faudrait trouver une solution pour ça aussi. Alors, écoute, mais ce sera pas avant ma retraite, ça c'est sûr.
Mais la voiture électrique aussi comporte ses inconvénients. Là. C'est pas le Klondike qui est là tout d'un coup, tous les problèmes environnementaux sont réglés. Les batteries, il faut les fabriquer. Là.
Ouais. Et
là,
faut les changer à un moment donné. Les pneus s'usent beaucoup plus vite parce que la voiture est beaucoup plus lourde. Quand ça brise aussi, les pièces sont très, très chères. Donc, c'est pour ça que les assurances sont beaucoup plus élevées. On dirait qu'on est dans une transition. Il faut attendre encore.
J'ai une proposition à vous faire pour tout ça.
J'ai peur.
Donc, tu t'habites dans un milieu où tu peux faire 60% de tes déplacements.
On habite chez Cogeco, Luc. On déménage.
Ouais, c'est grand. Moi, je pense que ça se pourrait.
Moi, je pense qu'on s'installe dans le bureau de Francisco, là, avec un petit lit
partout. Dans n'importe quel endroit où tu peux faire 60% de tes déplacements à pied, en vélo, en navette ou en covoiturage. Un carignan un peu boosté, ses stéroïdes, avec un beau centre, puis avec une épicerie, puis ça. 60% de tes développements dans le village. Okay?
Des triporteurs.
Et pour le reste du temps, tu partages une voiture, parce qu'on a parlé de communauté cette semaine, Marie-Ève, tu nous as dit c'est pas l'enfer, moi je peux en témoigner aussi, ça fait 15 ans que je suis là-dessus. Tu partages une voiture électrique pour des déplacements plus grands, qui va te coûter combien? 150$ par mois.
Ben, maximum, en tout cas, en ce qui me concerne, même si je la prends plusieurs fois, c'est tellement là, moins cher qu'une mensualité de voiture. Ben oui, puis moi, j'ai fait le choix. Je sais que tout le monde n'a pas la même réalité que moi. Ça, j'en suis consciente, OK? Là, je suis privilégiée. En plus, j'ai pas d'enfants. Donc, c'est particulier,
c'est au centre-ville de Montréal.
Mais oui, j'ai eu à déménager l'année dernière, puis dans mes choix de logis, j'ai dit, je veux pouvoir aller au travail à pied. Mmh. On cherche dans ce secteur-là, ce périmètre-là. Et vraiment, là, c'est extraordinaire. Mais oui, c'est une chance que j'ai. Mais je pense que c'est possible de réfléchir aussi de cette manière-là. Quand on a le choix, tu sais, Jérémy, je suis d'accord avec toi, change de job, déménage, non, peut-être pas. Mais si tu arrives à avoir une décision à prendre de où je vais vivre, je pense qu'on peut le considérer de se rapprocher.
C'est pas normal qu'il y ait des gens qui vivent sur l'île de Montréal. Ils sont pas à l'autre bout du monde, là. Ils sont sur l'île de Montréal. En transport en commun, ça prenne plus qu'une heure et demie se rendre au bureau au centre-ville. C'est
ça,
pas normal.
Je suis d'accord. Bon. Mais Jérémy, je sais que tu regardais sur tes écrans radar.
Foncier noir.
Non, mais regarde, je sais que tu regardais ces écrans où va être construit le prochain stade de baseball. Fait que t'as pas entendu la chronique qui a précédé, mais c'était sur le déficit du transport en commun. $1 milliard, $1.3 milliard pour la région de Montréal qui va être demandé au gouvernement du Québec, qui va dire non. Le gouvernement du Québec va dire non, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai discuté avec l'ex-président de la STM, on copoue. La question, c'est pas où est-ce qu'on en construit. La question, c'est où est-ce qu'on en coupe.
Ça va bien, nos affaires.
Oui, puis il y a un chauffeur de la STM qui nous écrit, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent, là, puis il dit, on manque de voies réservées pour les autobus.
Tellement.
Là, à la lumière de ce que tu viens de mentionner, puis des nouvelles, on n'est pas rendu là.
Écoute, ça fait plusieurs fois que je dis que le leader qui va régler tout ça, c'est un tyran.
On est présent à la table!
Non, mais
c'est toi, Luc!
Non, mais c'est présent à la table. Les gens, moi, je veux dire,
on regarde au centre-ville là, à quel point il y a la disparition des stationnements. Hein? Ce sont tous des tours maintenant qui se bâtissent, mais c'est parce que tu squeezes. Celui qui part, puis que lui, sa seule option, c'est l'auto, il n'y a plus de stationnement au centre-ville, ou s'il y en a un, c'est à 40 ou 45 $. Je veux dire, ça finit où? Ça finit comment?
En rendant 40$, t'engages un jeune, fasse le tour du bloc avec ton char.
Mais savez-vous ce que je fais, moi? Je me stationne plus loin, puis je marche. Donc, moi, c'est la marche que je fais. Je me stationne plus loin du bureau, 3, 4, 5 coins de rue, puis je marche. C'est ça, mon alternative.
Écoute, on arrête la creuse.
On va aller respirer dans le sac en papier brun.
C'est la catastrophe.
Non, on l'arrête sur cette bonne solution.
OK, oui, voilà. Okay. Hein?
On va chercher un peu.
On marche.
Merci beaucoup d'avoir participé.
Ça fait plaisir. Bye bye.
La chronique mi-chaud, mi-froid, une présentation de Point S Garage Martin-Roy de Sainte-Luce.
C'est pas là, jouer au hockey sur la rue Saint-Germain, là.
Ben non. Non, ni sur le boulevard La Fontaine, là.
Oui, sur la rue La Fontaine.
Puis on a tous joué au hockey dans la rue quand on était jeune. Mais on a tous connu aussi des vieux monsieur qui étaient intolérants.
Ouais, hein?
On connaît l'histoire de Charles Dickens, le vieux Scrooge du genre Noël, là, qui babounait alors que tout le monde avait le cœur à la fête, là. C'est un peu ça.
Mais il faut être cohérent dans ce qu'on veut faire aussi. On veut interdire les jeunes d'être sur leur écran
on
les empêche de bouger. Alors, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas en quelque part.
Ils vont pas tous aimer lire des romans jeunesse.
Oui, non. Mais la pire chose, là, c'est la panique au sujet de l'éclipse, là, où on avait peur que les jeunes perdent la vue. Le soleil, là, on le regarde pas de face.
Jamais. On donne la parole à beaucoup de gens qui se prononcent sur des sujets qu'ils connaissent pas.
Du lundi au vendredi à 8h15, le beau temps approche à grand. Et chez Batterie Expert, nous sommes prêts à vous faire vivre une saison inoubliable. Avec une vaste sélection de vélos, quadriporteurs et autres petits véhicules électriques, nous vous invitons à découvrir l'aventure qui vous attend. Nos experts sont là pour prendre soin de vos besoins en entretien et réparation sur place. Pour l'entretien de votre terrain, nous vous proposons les produits Ego, tondeuses, coupe-herbes, souffleurs à feuilles et autres accessoires. De plus, ne manquez pas notre collection d'accessoires solaires. Batterie Expert, 145 montées industrielles et commerciales, Rimouski.
Votre entreprise est grandissante, offrez-vous un système de téléphonie IP qui convient à votre réalité et à moindre coût grâce à Tactique Télécom. Travaillez d'où vous le souhaitez tout en restant connecté à votre entreprise. Vous avez besoin d'informer votre clientèle ou vos employés rapidement? Nous offrons le service d'installation de systèmes de sonorisation commerciale qui vous permettra également d'améliorer l'ambiance dans vos locaux. Envie d'en savoir plus? Communiquez avec nous au 418-721-7917 ou visitez le tactiquetelecom.ca.
Sortez les vélos de vos cabanons. Le plus vieux vélo bazar au Québec s'en vient. Des vélos pour toutes les bourses, des trésors à découvrir. Au pavillon polyvalent, 313 avenue de la cathédrale Rimouski. Samedi 4 mai de 10 à 15 heures. La journée des vendeurs. Apportez vos vélos fonctionnels à vendre ou à donner. Dimanche 5 mai, la journée des acheteurs. 9 heures, distribution des billets de priorité. 10 heures, entrée des détenteurs de billets de priorité. 11 heures, ouverture pour tous. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de Rimouski Ville Cyclable.
Rimouski, c'est fixe. 93.3.
Rivière-du-Loup est en mode série.
Faites du bruit!
Pour le
location, l'équipe du Centre Affaires vous offre plein de spéciaux. Voici nos 3 étoiles accompagnées par votre service unique d'installation et de réparation. 30 % de rabais sur certains modèles de TV et barres de son Samsung. Jusqu'à 90 % sur accessoires photo. Spéciaux incroyables dans notre département informatique. Go Centre Affaires, go! Go Centre Affaires, go!
FM 93.
Service de police, l'autre, c'est l'avocat. Exactement. Alors, on y va avec Marco Breton.
Ben, je voulais juste rectifier ce que vous avez dit d'entrée de jeu, c'est que c'est pas une initiative du SPVM.
Ah, OK.
Le mode d'intervention sexto, loin de là, ça existe depuis déjà 2016. Les instigateurs étaient les policiers de la ville de Saint-Jérôme, avec, justement, les procureurs du DPCP, qui, à ce moment-là, avec la recrudescence...
Bravo Saint-Jérôme.
Oui, bravo Saint-Jérôme. Et plusieurs corps de police ont suivi le pas. Je vous dirais que maintenant, au Québec, après le SPVM, pratiquement l'entièreté des corps de police vont faire partie du mode d'intervention sexto. Et c'est une bonne nouvelle. Et je suis vraiment content aussi que le SPVM, finalement, on ait rejoint...
Le groupe.
Vous comprendrez que c'est quand même des pourparlers qui ont duré plusieurs années avant de pouvoir être déployés officiellement à travers toutes les écoles de l'île de Montréal, qu'on en a déjà 130 qui sont dans le projet Sexto. Et puis, on est bien content de...
Quand vous dites déployer dans toutes les écoles, il faut aller les voir une par une?
Bien, la façon qu'on fonctionne, c'est ma toilette pourra renchérir parce qu'il a participé énormément à la formation des intervenants, c'est que le DPCP et le SPVM ont signé un protocole d'entente en 2023. Et à partir de là, bien, la collaboration des intervenants de tous les milieux scolaires a été incroyable parce que tout le monde voyait la plus-value d'adhérer à ce mode d'intervention-là. Donc, oui, tous les intervenants des établissements scolaires formés ont été rencontrés et formés, entre autres par Maître Ouellet.
Ben justement,
et les policiers du SPVM.
D'accord. Maître Ouellet, c'est quoi? C'est quoi la rencontre? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous visez par ce programme-là?
Oui, en fait, on s'était rendu compte déjà en 2016 qu'il y avait une augmentation des cas de sextage entre adolescents. Puis, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, ça peut occasionner des conséquences importantes chez les jeunes qui sont impliqués. Ce qu'on a fait comme constat en 2016 déjà, c'était que les méthodes traditionnelles n'étaient pas nécessairement adaptées pour intervenir auprès des jeunes parce que le sextage, comment nous on le conçoit avant d'identifier ces jeunes-là comme des délinquants sexuels, on parle d'une problématique qui est avant tout sociale et c'est une réalité qui est partagée par beaucoup de jeunes au Québec. Donc, on a voulu faire ça différemment et plutôt que de prioriser la voie judiciaire, on a tenté de développer un partenariat puis on a réussi à le faire. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et qu'on a pu implanter Sexto à Montréal. On voulait trouver une voie extrajudiciaire, une voie éducative pour adresser la situation.
Pourriez-vous nous la décrire, cette voie-là? Comment ça fonctionne?
Tout à fait. En fait, il y a plusieurs étapes à la démarche Sexto. Lorsqu'une situation est dénoncée, en milieu scolaire, parce qu'on comprendra que les cas qui ne sont pas dénoncés en milieu scolaire ne peuvent pas être adressés de la même manière, étant donné les rôles et responsabilités de chacun des partenaires. Dans les milieux scolaires, une fois que l'intervenant reçoit une dénonciation, on a conçu, élaboré une trousse d'intervention, la trousse Sexto. Donc, l'intervenant, maintenant, il y a un procédurier clair, va suivre des étapes prédéterminées. Donc, ça vient vraiment créer une façon méthodique d'intervenir dans ces dossiers-là et une façon uniforme à travers la province d'intervenir parce que, évidemment, le commandant Breton l'a mentionné, on est un petit peu partout au Québec maintenant avec la procédure Sexto. Donc, l'intervenant prend la trousse, ouvre la trousse, suit les étapes et à la fin de la procédure, une fois que les jeunes sont rencontrés, on va communiquer avec le service policier et le service policier va communiquer l'information retenue au DPCP. Il y a une évaluation de la situation qui est faite et dépendamment de la nature des gestes posés, on peut orienter le dossier vers une rencontre de sensibilisation. On parle de la majorité des dossiers, évidemment, qui sont traités comme ça. Et si, évidemment, le contexte fait que c'est plus important, on est plutôt dans un cas de malveillance où il y a des intentions malsaines derrière les gestes, mais là, on va orienter le dossier quand même vers les méthodes d'enquête traditionnelles.
OK, c'est quoi ça, orienter le dossier vers des méthodes de sensibilisation?
Bien, écoutez, c'est que au lieu d'avoir un processus judiciaire qui va s'étaler sur un an et demi, en 5 jours à peu près, on est en mesure de dresser le portrait exact de qu'est-ce qui s'est passé, d'établir s'il va y avoir ou pas une rencontre de sensibilisation. Et là, un socio-communautaire, on s'en parlait tout à l'heure, va faire une rencontre de sensibilisation avec le jeune fautif et ses parents ou son parent ou autre personne responsable. Et va expliquer les conséquences physiques, psychologiques, sociales, criminelles de la distribution d'images intimes, parce que c'est illégal au code criminel. Donc, c'est la rencontre de sensibilisation qui se fait. Puis l'autre point important de ce mode d'intervention-là, c'est qu'on réduit énormément le délai où la propagation des images se fait. Donc, en quelques jours à peine, déjà, on réduit beaucoup la distribution de ces images-là. Fait que ça, c'est un gros
avantage. Vous attrapez le jeune qui distribue ou le jeune qui a produit.
Oui.
Et